Sur la radio Renon, les 5e A vous souhaitent la bienvenue.
Dans cette émission, découvrons deux sujets d'actualité pour les ados, la question du cyberharcèlement et celle du temps passé devant les écrans.
Nous irons ensuite à la rencontre de deux surveillants du collège. Enfin, nous terminerons avec un sujet qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, les empoisonnements alimentaires.
Nous allons commencer tout de suite avec la question du harcèlement. Nous avons rencontré Madame Duby, professeure d'enseignement moral et civique, qui nous permet de mieux comprendre la question du harcèlement ainsi que du cyberharcèlement.
Alors le cyberharcèlement, c'est les élèves qui se font harceler, c'est-à-dire embêter, insulter sur les réseaux sociaux, sur Internet, de façon régulière. Les conséquences sont surtout d'ordre psychologique. La victime peut se sentir mal dans sa peau, avoir peut-être même envie de ne plus venir ni au collège, ni au lycée ou à l'école. Ce ne doit pas être des situations très faciles à vivre.
Avez-vous déjà été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux ?
Alors moi personnellement non, puisque je suis sur aucun réseau social, donc je ne risque pas d'être victime.
Quel est l'âge des enfants les plus jeunes qui sont inscrits sur les réseaux sociaux ?
Bah, officiellement c'est à partir de 13 ans, sauf qu'on sait qu'en moyenne, dès 8 ans, 9 ans, il y a des enfants qui sont inscrits. Donc là c'est très problématique.
Quelle est la punition pour les cyberharceleurs ?
Les peines peuvent être variées, ça peut aller... Il faudrait déjà que les victimes portent plainte et ensuite ça peut être des peines, des amendes ou même des peines de prison.
La question du cyberharcèlement rejoint la question du temps passé sur les écrans. Les jeunes d'aujourd'hui passent en moyenne 5h30 sur les écrans. Pour comparer et voir comment ça a évolué, nous avons posé la question à quelques professeurs du collège.
Moi en tant qu'adulte aujourd'hui, je dirais 3 heures par jour. Et quand j'étais enfant, j'avais pas d'écran.
Alors quand j'étais jeune, ça n'existait pas déjà, il n'y avait pas de problème d'écran à part la télévision. Et sinon, j'en passe pas mal de temps pour le travail, pour préparer les cours. Et pour mon loisir, par jour, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend des jours.
Alors quand j'étais jeune, le seul écran que j'avais, c'était à votre âge, hein, c'était la télévision. Donc je la regardais un petit peu le soir, mais je n'avais pas regardé un film, donc moins d'une heure, je pense. Et puis aujourd'hui, en général, je regarde un film, quelque chose en fin de journée, donc au moins 2 heures. Après, au travail, est-ce que ça compte ?
Oui.
C'est difficile parce qu'on a toujours l'ordinateur allumé au travail, mais on n'est pas toujours dessus, peut-être 2 heures.
Alors, quand j'étais jeune, tu vois, Internet n'était beaucoup moins développé, mais j'étais bien dans les premières générations à avoir un ordinateur. Je ne chiffrais pas les heures, hein, mais je pense que j'y jouais pas mal. Mais je ne saurais pas chiffrer, là. Mais bon, après, ça... Et puis, actuellement, j'ai besoin de me vider la tête, en gros, le soir, des fois. Donc, je vais être sur ma tablette à regarder mes loisirs. Et je vais peut-être, des fois, passer une heure sur ma tablette sans m'en rendre compte.
Pourquoi opter pour un contrôle parental ?
Protéger les enfants et avoir une surveillance sur ce qu'ils regardent.
Parce que des fois, les enfants n'ont pas à voir certaines choses sur Internet qui ne sont pas de leur âge ou trop violents. Donc, du coup, c'est bien des fois de garder le contrôle ou en tout cas de régler certains paramètres sur l'ordinateur.
Ben moi, je n'ai pas opté pour un contrôle parental. En fait, j'ai opté pour pas d'accès aux écrans ou aux ordinateurs ou au téléphone.
Je pense que quand on a des enfants qui sont mineurs, ils ne sont pas capables de juger des contenus qu'ils consultent. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour s'assurer que notre enfant ne regarde pas n'importe quoi.
Si vous avez des enfants, est-ce qu'ils ont le contrôle parental ?
Alors je sais que ce que je viens de dire par rapport au contrôle parental, mais j'ai très confiance en mon fils et on ne lui a jamais mis.
Kevin et Anaïs nous expliquent pourquoi ils sont devenus surveillants et ce qu'ils font en dehors de nous surveiller.
J'ai choisi ce métier par rapport à mes études dans l'éducation. Étant donné que je suis éducateur sportif, j'ai trouvé ça une suite logique d'être dans un collège par rapport à la catégorie que j'entrais.
J'ai choisi ce métier parce que je sortais de mes études de BTS et qu'il fallait que je trouve un travail. J'ai postulé ici et j'ai été prise, tout simplement.
On fait beaucoup d'administratifs. On est aussi en charge de la relation avec vos parents, au niveau de vos sorties, au niveau de vos absences, au niveau de vos retards. On a aussi la relation avec les professeurs pour quand ils font la peine. On travaille beaucoup énormément avec Madame Morin pour le suivi des élèves. Et je pense que
c'est... Les élèves au collège sont sages.
Quand on vous demande le silence, vous ne le faites pas forcément. Et puis vous respectez pas trop ce qu'on vous demande en fait.
Je trouve que l'attitude des élèves dans l'étude n'est pas adaptée à cette étude-là. Il faut que les élèves se rendent compte que l'étude permet de vous avancer dans vos devoirs pour que vous ayez le moins à faire à la maison. Vous arrivez facilement à faire la part des choses entre l'étude et l'extérieur. C'est-à-dire que dans l'étude, vous savez qu'il faut avoir un cadre à respecter, et à l'extérieur, vous êtes un peu plus libre à venir nous voir et à discuter de tout et de rien dans
la
cour.
À
vous confier, et même si c'était dans l'étude juste à 10 minutes avant.
Et cet été, que feront-ils ?
Moi, je suis serveuse dans un restaurant.
Et moi, je travaille avec le centre de loisirs et je m'occupe beaucoup de camps, du centre de loisirs aussi, et de stages dans le monde du football.
L'intoxication alimentaire est principalement définie par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par des agents infectieux, bactéries, virus, parasites ou par une substance toxique produite par un agent infectieux.
La plupart des cas d'intoxication alimentaire se produisent à la suite de la consommation d'aliments contenant des organismes pathogènes ou des toxines. Nausées, vomissements, diarrhée, fièvre, crampes d'estomac, coliques.
Combien de temps cela peut durer ?
Les symptômes de la cryptosporidiose commencent généralement de 1 à 12 jours après l'infection et durent habituellement 10 à 14 jours, mais peuvent occasionnellement durer plus longtemps.
Certaines personnes infectées peuvent ne présenter aucun symptôme et néanmoins transmettre la maladie.
Affaire du pain maudit.
Affaire du pain maudit est une série d'intoxications alimentaires qui frappe la France pendant l'été 1951, dont la plus sérieuse à partir du 16 août à Pont-Saint-Esprit-la-Gare, où elle fera 5 voire 7 morts, 50 personnes internées dans un hôpital psychiatrique et 250 personnes atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables.
70 ans après les événements, le pont Saint-Esprit, on ne sait toujours pas à quoi les attribuer. Cliniquement, les symptômes étaient ceux d'une forme mixte d'ergotisme, mais ce diagnostic n'a pu être prouvé. Pour la justice, la cause est une farine avariée.
Les salmonelles n'ont été découvertes dans les marques Kinder et Buitoni. Cela a fait à peu près 150 cas en France. Elles ont été découvertes dans une usine.
En France, il y a eu 2 décès. Des enquêtes ont été ouvertes par la justice afin de bien comprendre ce qui s'est passé.
Et c'est la fin !
Merci
de nous
savoir écouter.
C'était la Radio Renon.